À Bukavu, une quarantaine de magistrats militaires et inspecteurs de la police judiciaire militaire congolaise venus de différents territoires de la province ont suivi la semaine dernière une formation portant sur le thème « Enquête judiciaire sur les infractions à caractère sexuel ». Il faut savoir que les formateurs sont deux instructeurs américains venus des États-Unis et trois de la justice militaire congolaise venus de Kinshasa. Elle est organisée par l'Institut des études juridiques internationales du département de la défense des États-Unis avec l'appui de l'unité État de droit de la MONUC. Nous en parlons justement aujourd'hui afin de savoir qu'est-ce qui a été décidé à l'issue de ce séminaire. Nous allons recevoir tout à l'heure le colonel Laurent Moutata, auditeur militaire supérieur pour le sud de Kivu, mais vous pouvez déjà intervenir si vous souhaitez réagir bien sûr au 081 070 20 50. Adolphine Langoy, nous sommes avec vous afin que vous puissiez nous éclairer sur cette rencontre. Alors, pourrons-nous savoir dans quel but les organisateurs de cette session de formation ont tenu ici, au Congo en général et au sud Kivu, en particulier ce séminaire?
Nicole, on doit d'abord noter que cette formation à l'intention des magistrats et inspecteurs judiciaires n'est pas la première de son genre en République démocratique du Congo. C'est ce qu'a expliqué en fait le major Geneviève Roski de la section Unité État des droits de la MONUC. Selon elle, c'est la deuxième rotation après celle intervenue en début de cette année à Kinshasa, Matadi et à Kisangani. Alors, selon Paul Moubangou des forces terrestres américaines, il y avait un besoin qui se faisait sentir en matière de justice militaire pour une formation des magistrats militaires et autres inspecteurs judiciaires, ceci étant donné les nombres importants des cas de viol enregistrés en République démocratique du Congo et dont les militaires seraient en grande partie les auteurs, mais aussi l'impunité qui s'en est suivie. On écoute à ces propos le lieutenant-colonel Moubangou.
L'année dernière, le département d'État, en consultation avec le département de la défense des États-Unis d'Amérique, a demandé à l'Institut d'études juridiques internationales du département de la défense de dépêcher en République démocratique du Congo une équipe composée de juristes américains, militaires bien sûr, experts en matière de justice militaire. La mission confiée à cette équipe était d'obtenir des informations sur les besoins de la justice militaire congolaise et de soumettre des recommandations qui permettraient aux responsables américains de déterminer comment aider le gouvernement congolais dans son effort de rénover sa justice militaire. À la suite de cette mission, un rapport a été établi et soumis simultanément aux autorités américaines et congolaises, ainsi qu'aux responsables de l'unité d'état de droit de la MONUC. Par la suite, un programme de formation a été conçu et établi en parfait accord entre les autorités congolaises et américaines et avec le soutien des responsables de la MONUC.
Oui, mais nous savons que l'armée, qui a le rôle de protéger la population, parfois on accuse certains éléments en uniforme de violer la population. Est-ce qu'on a eu à débattre également de cette question au cours de cette formation?
Tout à fait, Nicole. Et c'est pourquoi il est nécessaire que cette population ait un minimum de confiance en cette armée. Or, si certains cas de viol sont justement perpétrés par certains éléments de cette armée, si les cas de viol portés au niveau de la justice militaire ne sont traités de manière à obtenir la condamnation des auteurs, la population ne peut pas du tout avoir confiance en cette armée. Par cette formation, les participants pourront acquérir des connaissances leur permettant d'en et cette justice. Écoutons encore une fois de plus le lieutenant Moubangou de l'armée de terre américaine, l'armée terrestre américaine.
L'usage systématique et généralisé de la violence sexuelle contre les femmes, y compris les enfants, comme une arme ou une méthode de guerre représente la forme la plus grave, la plus répréhensible de l'absence du bon ordre et de la discipline au sein d'une force armée. C'est aussi la forme la plus déshumanisante des populations civiles que les militaires ont le devoir constitutionnel de protéger. De telles atrocités, lorsqu'elles sont perpétrées par les militaires, constituent un poison contre le bon ordre et la discipline au sein de l'armée, entravent le respect et la confiance des populations civiles envers l'armée et affaiblissent les chances de la réconciliation nationale plus que toute autre question de routine qui confronte l'armée congolaise aujourd'hui.
Oui, c'est bien d'inculquer tout cela aux hommes en uniforme, aux militaires, mais le problème en est que dans bien des cas, ce qui a été décidé n'est pas appliqué après, hein, sur le terrain. Alors comment, du côté des magistrats militaires ou bien des inspecteurs judiciaires, comment est-ce qu'ils ont reçu cette formation à la Chine?
Bon, apparemment, les principaux participants ont manifesté un intérêt particulier, étant conscients de ce climat de manque de conscience que manifeste la population vis-à-vis de l'armée et vis-à-vis de ces personnes. D'ailleurs, je vous propose d'écouter le capitaine Banyongi, auditeur militaire de la garnison d'Ouvira, qui donne son avis à ces propos.
Je crois que nous devons de temps en temps suivre ce genre de séminaires pour nous aider, non pas seulement à acquérir des connaissances en rapport avec les infractions de violences sexuelles, mais aussi sur le terrain, nous devons être actifs et efficaces pour réprimer ce genre d'infractions. Moi, je crois que c'est ça vraiment l'intérêt que nous y mettons pour suivre ce genre de séminaires.
Alors, si on va un peu plus loin, c'est-à-dire auprès des victimes des infractions, notamment de viol, cette démarche visant à rétablir le climat de confiance entre l'armée et les civils à travers la justice, est-ce que le besoin réel ressenti au niveau des femmes victimes de viol?
Eh bien, parmi les besoins exprimés par les femmes victimes d'infractions sexuelles figure surtout la justice. Cela a été d'ailleurs exprimé dans un mémorandum de ces femmes adressé à la Cour pénale internationale le mois dernier. Mais moi, que les femmes de médias du Sud Kivu ont défendu même à l'arrêt. Les défenseurs des droits des femmes soutiennent ces efforts de renforcement de la justice pour les femmes violées, mais estiment qu'il faut en outre renforcer la réhabilitation des infrastructures devant accueillir les condamnés. On écoute Jolie Kamundu, une des responsables de l'association des femmes de médias au Sud Kivu.
C'est pas facile de vivre dans un quartier avec quelqu'un qui vous a violé, même si vous lui financez pour qu'elle soit insérée dans la communauté. Comment elle va faire les activités alors qu'elle est toujours en contact et permanent avec celui qui l'a violé? Aujourd'hui, si vous comptez le nombre de procès, des viols, c'est regrettable. Au parquet, ici à Bukavu, on doit louer vraiment cette avancée. Et on a vu que les magistrats commencent à s'intéresser sur les dossiers des viols. Le procureur de la République, avant d'aller en Belgique, il nous a dit que pour l'année 2007, ils ont jugé 63 cas des viols par rapport aux années précédentes où ils jugeaient seulement une dizaine. Dans les autres provinces, il y a des obstacles. Il y a la réhabilitation de la justice. On peut bien fournir des efforts au niveau de la justice, on condamne ceux qui ont commis les viols, mais quand on les amène à la prison centrale, par exemple, avec la situation que tout le monde connaît, les tentatives d'évasion chaque jour, c'est un obstacle majeur.
Oui, c'est vrai, hein, ce qu'elle affirme. Lorsque on arrive à arrêter certains auteurs de viols, ils sont incarcérés. Mais qu'est-ce qu'on apprend par après? Ils se sont évadés. C'est ça aussi le grand problème, hein, Delphine Goy. Alors, qu'en est-il de la question du dédommagement des victimes de viols? Est-ce qu'il y a eu quelques cas qui ont été relevés lors du séminaire de formation des magistrats militaires?
Exactement. Parmi les propositions importantes recommandées figure cette démarche qui a attiré notre attention, la création d'un fonds pour dédommagement des victimes de violences sexuelles. Alors, ce fonds initié par la MONUC va permettre de donner des avances de dédommagement avant que les condamnés s'exécutent. Ceci pour redonner encore une fois de plus confiance aux victimes et à la population qu'elles peuvent toujours se réitérer à la justice. Je vous propose sur ce fait de suivre les explications du responsable de la section 3 de l'homme de la Monique, M. Luc Quinquembrun.
Actuellement, trop de victimes qui vont devant la justice obtiennent que leur auteur de viol soit condamné à payer les dommages et intérêts. Mais dans la pratique, ces dommages et intérêts ne sont jamais payés aujourd'hui. Et donc, nous aimerions que soit mis en place un fonds de garantie de l'indemnisation des victimes de violences sexuelles. Un tel fonds pourrait permettre d'accorder justement à la femme victime de viol, une sorte d'avance partielle sur les dommages et intérêts qu'elle devrait normalement recevoir de l'auteur, mais qu'elle ne reçoit pas.
Voilà, on va faire maintenant le point avec notre invité pour voir comment on compte mettre en application tout ce qui a été décidé au cours de cette formation, hein, formation qui a été réservée à une quarantaine de magistrats militaires et inspecteurs de la police judiciaire militaire congolaise. Merci beaucoup à Delphine Goy d'avoir été les nôtres et nous vous disons à la prochaine.
Je vous en prie.
Ok,
reçu Samba.
Nada à prendre A.
Je m'appelle Kesha.
Je m'appelle maman Nimbo. Je m'appelle papa Jambo.
La conclusion du jour.
J'aime beaucoup parce qu'elle écrit bien. On écrit les chiffres 2.
Ok, c'est les petits.
Azad et maman part au marché.
Ok, puis maman. Du lundi au vendredi, de 12h15 à 15h hors de Kinshasa.
Nous parlons en ce moment de la lutte contre l'impunité des violences sexuelles commises par les militaires. Nous sommes là au Sud Kivu, précisément à Bukavu. Vous savez, vous avez suivi tout à l'heure, il y a une formation qui a été organisée pour une quarantaine de magistrats militaires inspecteurs de la police judiciaire, militaires congolaises, venus de différents territoires de la province. Ils ont suivi cela la semaine dernière. Alors, il y a plusieurs recommandations qui ont été prises. On va en parler maintenant avec le colonel Laurent Mouteta, auditeur militaire supérieur du Sud Kivu, et nous vous invitons également à réagir avec vos SMS. Faites des propositions, posez des questions au 081 070 20 50. Colonel Laurent Mouteta, bonjour.
Bonjour.
Nous pensons que vous avez également à prendre part à cette formation qui a été organisée la semaine dernière, n'est-ce pas?
Prendre part, non. Moi-même, j'assurais une formation presque analogue à Nituri. Je n'ai pas pris part personnellement à cette formation.
Mmh. Mais vous avez certainement entendu ce qui a été décidé, les recommandations qui ont été prises à l'issue de cette formation atelier.
Oui, certainement. J'ai pu prendre connaissance de ce qui a été décidé ou les recommandations qui ont été faites à l'issue de cette formation, madame.
Mmh. Parmi quelques recommandations, nous savons que vous avez suivi d'ailleurs le point de vue tout à l'heure de des responsables au niveau des droits de l'homme de la MONUC qui a souhaité à ce qu'un fonds de garantie de l'indemnisation des victimes soit préparé en conséquence. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'auditeur militaire supérieur?
Oui, merci bien, madame, pour la question. Je crois que les garanties d'indemnisation sont nécessaires parce que c'est une dérision qui peut amener les victimes à pouvoir saisir le plus possible les instances judiciaires. Parce que, comme vous le savez, lorsque on peut se présenter devant les instances judiciaires et qu'on n'a pas l'espoir de pouvoir être indemnisé, de pouvoir obtenir réparation, je crois que cela peut démotiver les victimes. Je pense que c'est nécessaire, effectivement, que l'on puisse aller dans le sens de pouvoir renforcer ces garanties pour permettre aux victimes d'être indemnisées et assurer ainsi, et d'ailleurs, la bonne image de la justice elle-même, parce que l'aura répondu à une des attentes fondamentales des victimes.
Mmh. Mais dans bien des cas, lorsqu'il y a condamnation, curieusement, on apprend que celui qui a violé, qui a commis le viol, s'est évadé. Comment expliquer cela en tant qu'auditeur militaire? Est-ce qu'aujourd'hui, après avoir suivi cette formation, après que ces magistrats, militaires et inspecteurs aient à suivre cette formation, on peut croire qu'il y aura à nouveau ce climat de confiance entre l'armée et les civils à travers la justice?
Le climat de confiance, c'est une des préoccupations des responsables que nous sommes, parce que on doit absolument rétablir ce climat. Mais par rapport à votre question, je pense que le problème des balions n'est pas imputable forcément aux magistrats, parce que les établissements pénitentiaires ne relèvent pas du contrôle des magistrats. C'est une autre dimension de responsabilité. Là, je crois que le magistrat fait son travail lorsqu'il est du parquet, c'est celui d'instruction et de saisine des juridictions de jugement. Et lorsqu'il est du siège, c'est celui d'examiner, d'instruire le dossier et de rendre la décision attendue. Mais évidemment, le ministère public a la charge de pouvoir suivre l'application de peine mais la gestion des institutions pénitentiaires, des établissements pénitentiaires, ne relève pas de la compétence des magistrats.
Mmh.
Et je crois que là, c'est un service à part et qui doit être aussi rendu attentif par rapport justement à cette dimension de détention des éléments découpables des viols.
Mmh.
Parce que effectivement, pour le commun des mortels, lorsqu'il y a une évasion de ce genre, il est d'une manière ou d'une autre imputé à la justice.
Mais oui, on a tous la justice à
comprendre comment les services fonctionnent.
Oui.
Et je crois que généralement, c'est quand le dossier est encore au niveau du parquet et qu'il y a eu une évasion que l'on croit peut-être qu'il y a eu des
arrangements
entre magistrats et inculpés. Mais là aussi, je dois dire que la responsabilité de magistrat n'est pas forcément engagée par rapport à cela, sauf s'il y a eu évidemment des arrangements, parce que
on peut
reconnaître que ces genres d'éventualités peuvent toujours se produire,
oui,
mais lorsque cela ne relève pas, n'est-ce pas, de la faute du magistrat, ça ne peut pas lui être impliqué.
Oui, colonel, dans bien des cas, on condamne le magistrat parce que, eux qui ont cette prérogative d'établir les infractions arrivent parfois à relâcher les bourreaux parce que ils n'ont pas pu réunir tous les éléments infractionnels. Est-ce que vous pouvez nous aider? Quels sont les éléments infractionnels qu'on peut directement, disons, qui peut permettre d'établir les infractions liées aux abus sexuels ou aux violences sexuelles?
Bon, les violences sexuelles, c'est un terme assez globalisant, qui renferme énormément d'infractions. Et je crois que les éléments, on ne peut pas les passer en revue au cours d'une émission comme ça.
Non, mais juste des éléments importants.
C'est que pour ces genres d'infractions, de manière générale, il y a des preuves qui doivent être apportées. Hein, les moyens de preuve doivent être apportés, notamment l'identification du véritable auteur du crime ou du délit, et les attestations médicales éventuellement qui doivent être produites pour attester effectivement qu'il y a eu violence ou sévices sur la victime, et l'intention criminelle qui doit être établie aussi, parce que lorsque la personne a été contrainte, par exemple, de pouvoir recourir à ces genres d'actes, je crois qu'il faut plutôt établir la responsabilité pénale dans le chef de l'incitateur, probablement, ou de celui qui l'a contrainte à pouvoir poser un tel acte. Et je crois que c'est des éléments, de manière amassée, qui peuvent être pouvoir établir la culpabilité de l'auteur.
Oui, mais de manière générale, si nous parcourons tous nos centres pénitentiaires, on se rendra compte qu'effectivement, la majeure partie des détenus, disons, ce ne sont pas ces gens qui ont été condamnés qui pour infraction de violences sexuelles, parce que finalement, les magistrats ont du mal. On remarque que les magistrats n'ont pas été suffisamment formés pour cette question des violences sexuelles, éprouvent de longues difficultés pour établir, condamner ces bourreaux.
Bon, les magistrats n'ont pas suffisamment été formés. Non, je pense qu'il y a énormément de forums qui se tiennent actuellement par rapport à ces infractions de violence sexuelle. Il y a suffisamment de formations actuellement avec les ONG de droits de l'homme. Je peux citer Avocats sans frontières, je peux citer Régisco, je peux citer la Monique aussi, qui n'est pas organisé évidemment, mais qui collabore avec d'autres corporations.
Oui, mais colonel Laurent Moutata, il faut quand même reconnaître qu'il y a des difficultés au niveau de la justice. Condamner un militaire qui a été auteur de viol, ce n'est pas facile, hein, quand même, au niveau de la justice militaire. Reconnaissez-le, colonel Moutata.
Ce n'est pas facile par rapport à quoi? Parce que nous condamnons les gens, et je ne sais pas quand vous dites que ce n'est pas facile. C'est par rapport à quoi?
Oui, mais parce que tout à l'heure...
Chaque fois que nous avons des dossiers, lorsqu'il s'agit d'un cas de viol, quand même, Et je crois que les définitions des viols sont clairement fournies par le législateur. Et quelle est la difficulté qu'on peut trouver lorsqu'on a été magistrat, lorsqu'on réunit quand même un certain nombre d'années d'expérience, lorsqu'on a eu à statuer sur ce genre de cas? Parce que ce qui a évolué, par exemple, dans la définition du viol ici, c'est l'extension de la définition par rapport à la notion restrictive qu'on avait au départ. Maintenant, le viol est étendu même aux victimes de sexe masculin. Et puis, le viol s'étend aussi à l'usage d'instruments qui n'ont rien à voir avec le corps humain. Et que ça peut poser des difficultés.
Parce que, si on insiste, hein, c'est parce qu'au cours de la formation qui a été organisée à Bukavu, on a pu quand même aider les magistrats militaires à obtenir certains éléments, certaines connaissances qui pourraient leur permettre d'améliorer leur justice. Ça veut dire qu'il, quelque part, il y avait un problème. Hein.
Et surtout, avant la promulgation de lois sur les violences sexuelles, les magistrats n'étaient pas suffisamment outillés.
Bon, les magistrats n'étaient pas finalement outillés, c'est par rapport à quoi? Ce n'est pas la loi, c'est-à-dire que la loi a évolué. Hein, le législateur évolue dans l'appréhension de la notion de viol, par exemple, ou des violences sexuelles, parce qu'il y a des innovations qui ont été apportées par le législateur par rapport à l'ampleur du phénomène. Hein, là, je crois que on évolue avec le législateur en ce moment-là. Mmh. Mais avant la promulgation de la loi à laquelle vous faites allusion de 2006, du 20 juillet, mmh. Je crois que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait une notion restrictive du viol. Hein, c'est limité à la conjonction sexuelle. Hein, des membres, du membre viril de l'homme avec l'organe génital féminin. Lorsque ce qui était encore ajouté, c'était le rapprochement sexuel en ce qui concerne les mineurs, hein, qui était réputé viol à l'aide de violence. Mais c'est des notions qui évoluent, comme la loi évolue aussi. Hein, quand la loi évolue, même le praticien aussi évolue par rapport à la loi. Il ne reste pas figé. C'est ce qui nécessite justement les formations. Les formations ont toujours l'avantage d'apporter le plus, effectivement, aux praticiens. Ça doit être des recyclages.
Ça apporte un plus, c'est vrai.
Oui, c'est important, ça on ne peut pas le nier.
Oui, c'est important, mais dans bien des cas.
Les praticiens, en ce qui concerne l'administration de la justice.
Colonel Laurent Moutata, nous savons que les formations, oui. Ce n'est pas la première formation du genre, vous l'avez reconnu. Mais dans bien des cas, lorsque on prend quelques recommandations, après, on apprend que ça n'a pas été pris en compte. En pratique, on ne tient pas compte de ça. Et ça déçoit la population. Aujourd'hui, on peut même dire, s'il y a ce manque de confiance de la part des civils, c'est parce que, bon, les résolutions ne sont pas prises en compte sur le terrain, colonel Moutata.
Et surtout si nous prenons l'exemple de violences sexuelles commises à Sorombojo, disons, on remarque que les bourreaux qui ont été appréhendés, qui ont amené d'ailleurs au niveau du parquet, ont été par la suite relâchés.
Bon, là, vous évoquez plusieurs problèmes. Je ne m'excuse pas le dossier de Sorombojo, mais je sais qu'une décision avait été rendue dans ce cas, qui est du reste resté historique, parce que c'est une décision de référence. Mais que les résolutions ne sont pas suffisamment appliquées. Je crois qu'il y a beaucoup de paramètres hein, qu'il faut prendre en ligne de compte. Hein. Il ne faut pas se limiter juste à émettre ces critiques négatives. Elles peuvent être fondées en partie, parce qu'on est des humains. Je repousse, comme je l'ai toujours dit, toute bonne conscience à la perfection, à la suffisance. Parce qu'on est des humains, on est faillible. Il peut y avoir effectivement des erreurs hein, dans le chef de praticien. Et ceux qui sont appelés à assurer l'administration de la justice, c'est vrai. Mais il est vrai aussi que l'effort est constamment fourni par rapport d'ailleurs aux exigences même, aux impératifs du législateur, aux impératifs locaux, dans le sens de pouvoir améliorer l'administration de la justice en matière de violences sexuelles. Hein. Mais les outils de travail sont de plus en plus d'ailleurs disponibilisés pour ça, et nous savons que nous devons fournir un effort par rapport à cela. Il y a des erreurs, ces erreurs doivent être corrigées. mais cela ne signifie pas que cela doit les gens sont restés figés pour recevoir juste des critiques négatives de la part de la population. Il y a un effort qui est fait. Parce que moi, je venais de mener une enquête, par exemple, quelque part dans la province profonde de Sabunda, mais il y a quand même qu'il y a la force de la justice dans le chef de la part de la population, hein, qui était suffisamment intéressé de voir quand même le magistrat défendre vers eux. Parce qu'il y a beaucoup de problèmes, peut-être, du rapprochement de la justice des justiciables. Il y a des problèmes de mobilité même des acteurs judiciaires sur le cas, par rapport peut-être aux moyens de transport. C'est peut-être ça qui fait que, bon, qu'on ne sente pas tout de suite l'action de la justice à l'ampleur du phénomène par rapport à l'ampleur du fléau.
Oui,
c'est presque ça. Mais je crois qu'un effort est fourni quand même pour essayer davantage, pour des cas du moins dont la justice est saisie, pour qu'elle puisse être examinée dans les délais impartis ou imposés par la loi.
Oui, et colonel, ce n'est pas un secret qu'aujourd'hui le taux de violence sexuelle est très élevé dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains. Les enquêtes que vous avez menées aujourd'hui, est-ce que s'il faudrait mener cette lutte contre l'impunité des violences sexuelles commises par les militaires, est-ce que la même approche sera utilisée dans ces deux milieux différents?
De tous les milieux, ça existe.
Le milieu urbain, le milieu urbain et le milieu rural.
Bon, l'approche est laquelle? Bon, c'est vrai que dans les milieux ruraux, effectivement, il y a le taux de violence sexuelle est plus élevé. Et pour plusieurs raisons. Parce que les instances judiciaires sont presque inexistantes dans ces milieux là-bas. Et des deux, c'est dans ces milieux qu'on retrouve le plus des groupes incontrôlés. Vous ne l'ignorez pas que nous sommes, par exemple, ici au sud Kivu, c'est une province post-conflictuelle où on peut retrouver par-ci par-là des armes en circulation, et ces armes ne sont pas détenues forcément par les militaires. Il y a les ex-membres des milices, des groupes incontrôlés, qui continuent à détenir les armes. Et lorsqu'ils commettent ces genres d'actes, c'est loin, parfois du magistrat, c'est loin de nos pays. Et tout de suite, on ne peut pas mettre la main sur ces genres de personnes qui sont du reste en position de force. Alors, lorsqu'on y va, on recourt certainement aux dénonciations ou plaintes des victimes, ou même des ONG de droits de l'homme qui opèrent un peu dans ces lieux-là. Et là, je pense que la tâche est un peu plus ardue, parce qu'il faut rechercher la personne. En ce moment-là, lorsqu'elle apprend qu'il y a par exemple des acteurs judiciaires qui sont présents dans le secteur, ces personnes où la personne tente de kidnapper, c'est une démarche assez laborieuse qui va être menée, peut-être avec le concours de notabilité de la place, mais s'il y a des complicités pour peut-être aussi le soustraire ou soustraire la personne des poursuites judiciaires, c'est une difficulté pour l'enquêteur.
Oui, colonel Laurent.
Vous voyez que c'est autant de problèmes, de paramètres qu'il faut prendre en ligne de compte lorsque on émet aussi des critiques vis-à-vis de la justice.
Oui, colonel Laurent Moutata, on va bientôt se quitter, on va se séparer. Alors, en tant qu'auditeur militaire supérieur au sud Kivu, quelle sera votre contribution après cette formation, cette énième formation dans le sud Kivu, qui essaye tant soit peu de remettre la confiance entre les civils et les militaires? Vous, à votre niveau, comment comptez-vous jouer, je peux dire, de votre rôle en tant qu'auditeur militaire pour aider tant soit peu la justice militaire à s'améliorer dans le sud Kivu?
Bon, le rôle que doit jouer un auditeur supérieur, c'est le rôle justement de l'officier du ministère public. C'est-à-dire que on doit être à l'écoute de la population, notamment de la population victime.
Est-ce que vous l'êtes?
Et on doit être... Pardon?
Est-ce que vous l'êtes?
Oui, on l'est. Je pense quand même que... vous n'êtes peut-être pas ici, mais vous pouvez toujours poser des questions.
Mmh.
Évidemment, nous sommes très très attentifs à tout ce qui se passe, surtout en matière de violence sexuelle. Et notre contribution, c'est justement de pouvoir réagir par rapport à cette criminalité dans les délais imposés par le législateur national, et notre contribution c'est de rendre davantage attentifs nos collaborateurs pour avoir la même attitude, la même promptitude lorsqu'ils sont saisis de ce genre de cas. Mais un problème auquel vous ne faites peut-être pas allusion, c'est peut-être la disponibilité aussi des magistrats en termes d'effectifs. Parce que on peut avoir le cas, on peut respecter les délais peut-être au niveau du parquet, mais lorsqu'on avait un juge qui est appelé peut-être à examiner plusieurs dossiers à la fois, et même dans deux garnisons, aussi bien vous dira, vous comprenez que ce juge-là est très limité.
Mmh.
Il ne peut pas résoudre le problème selon les attentes de la population, selon les attentes des victimes.
Mmh.
Là, c'est aussi une difficulté.
Mmh.
Mais un autre apport, je dois le souligner en tant que doctrinaire, parce que j'ai écrit aussi sur les violences, et je viens de publier un titre nouveau sur les traités des crimes internationaux, j'y évoque également les violences sexuelles, et je crois que c'est une contribution, c'est la mise à la disposition aussi de l'acteur judiciaire, des outils de travail pour pouvoir avoir des repères nécessaires afin de surmonter certaines difficultés d'ordre doctrinal et jurisprudentiel pour pouvoir améliorer son rendement en ce qui concerne la bonne administration de la justice. Voilà.
Colonel Laurent Moutata, nous vous remercions d'avoir été des nôtres en tant qu'auditeur militaire supérieur pour le Sud Kivu et nous vous disons à la prochaine.
Merci bien, madame, pour avoir songé à notre modeste personne. Merci.